Dieu, mon ami, c'est le thème de mon message aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager une petite expérience que je vis ces jours, que je vis depuis le 18 février exactement, la fameuse date où je me suis cassé, pété, foutu en l'air, le tendon rotulien. C'est vrai que ça fait un mal de chien, ce truc-là. Hein. Alors quand vous êtes le cul dans la neige, en train de souffrir mille morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire comme moi. Jésus, viens m'aider, viens prendre ma souffrance, viens me soulager. Et vous savez quoi? Ben, c'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, puis plus tard, je pense, pas de douleur. Pas de douleur. Vraiment, le Seigneur, il prend soin de nous. Et je dis vraiment avec une majuscule. Pas dire que j'ai pas eu de la gêne, ou des tiraillements, ou des fois une impression d'étau dans le genou. Mais la douleur, elle n'était pas là. Donc, gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous avez des amis? Des copains? C'est quoi la différence? C'est quoi un ami? C'est quoi un copain? C'est quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances? C'est quelqu'un avec qui partager son mal-être? Ou, pour être moins négatif, son bien-être? Quelqu'un qui nous est proche aussi spirituellement, peut-être? Moi, je dirais que c'est tout ça à la fois. Il y a une similarité d'ailleurs, ce que nous vivons avec un ami, un copain ou comme ça, et le Christ. Mais il y a quelque chose qui me gêne des fois, me gêne beaucoup. C'est quand j'entends dans certaines églises, oh, Dieu, c'est mon copain. Ou bien, Jésus, c'est mon pote. Ouh, on est sûr de ça? Moi, je trouve que cette familiarité-là, ça me fait un peu songer. Je reste un peu sur ma faim. Faudrait peut-être changer un peu les termes des fois. N'est-ce pas cela la crainte de l'Éternel au final? Alors, comme d'habitude, vous connaissez mes travers maintenant. Voilà une définition. Définition, donc l'ami, l'ami qui vient du latin amistet, qui signifie affection entre deux personnes en dehors des liens du sang ou de l'attrait des sexes. En d'autres termes, un ami ou une amie ne saurait être confondu avec un ou une amoureuse, bien qu'il y ait une notion d'amour platonique dans l'amitié. Et puis, il y a l'essence figurée, ami des arts, conseil d'amis, etc. Et les synonymes sont camarades, compagnons, partenaire, familier, compère, amoureux et bien-aimé. Retenez bien ce bien-aimé. Copain, copain, c'est quoi? Alors, c'est un mot qui est apparu dans sa forme COPIN au XVIIIe siècle, qui signifiait à l'époque grand homme sot et niais. Par contre, le mot compain qui a donné copain actuel, apparu au XVe siècle, voulait bien dire lui compagnon, celui avec qui je partage mon pain. Alors les synonymes, ça ressemble un peu à ami, camarade, compagnon, ami, acolyte, partenaire, compère, pote, condisciple et complice. C'est pour les plus courants. Vous voyez, ami, copain, ça s'entremêle désormais dans un joyeux méli-mélo linguistique à en perdre son latin. Alors, je vais vous parler de sept qualités de Dieu ce matin. Sept. Sept. Pourquoi sept? Il y en a beaucoup plus. Il y en a énormément de plus. Mais sept, c'est quand même un chiffre parfait, non? Et puis, en plus de ça, moi, j'aimerais bien que vous ayez puissiez aller manger à midi, donc je vais faire un peu plus court. Mais le chiffre, sept, c'est à l'image de Dieu. C'est parfait. Il a créé le monde en 7 jours, par exemple, où il y a les 7 paroles de Jésus sur la croix, où il y a nos Israélites qui ont fait 7 fois le tour de Jéricho avant que les murailles s'écroulent. Et puis les cathos, ils ajoutent les 7 péchés capitaux ou les 7 sacrements. Mais 7, c'est très important. Alors, première qualité, Dieu est amour. Première qualité. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7, 8. Alors dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu se révèle comme celui qui aime sans condition. Un cœur de père aimant ses enfants, mais que ceux-ci, un enfant gâté, font saigner parfois. Pourtant, son amour est le plus fort. Il est éternel. Et la preuve en est le sacrifice qu'il a consenti à la croix. Jean 3, 16. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Par ailleurs, il aime tout le monde. La profondeur de cet amour est insondable, insondable, impossible à appréhender pour nous autres les humains. Jamais un de nos congénères ne pourra nous aimer autant que Dieu lui-même. Et alors, toujours dans l'histoire du français, des définitions, il y a quand même trois définitions que j'aimerais relever avec ça. L'agapé, vous connaissez, l'amour divin, souvent traduit d'ailleurs par la charité. C'est l'amour parfait, celui de Dieu, précisément. On bénéficie, ben, il ne doit rien du tout au mérite ou qui on est, mais uniquement de cette grâce de Dieu qui n'appartient qu'à lui seul. Et je lis dans 1 Jean 4, 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ensuite, vous avez Eros, l'amour romantique. L'amour Eros, typiquement humain, est l'intimité physique entre un mari et une femme dans le mariage. Dans le mariage. C'est un don de Dieu. Genèse 2, 18, 24, Proverbe 5, 18, 19, Cantique des Cantiques 4, 9, 10. Dans notre société, hélas, Eros est perverti et se prête à tout et n'importe quoi, et dans la sexualité particulièrement. Et puis, il y a une troisième définition qu'on ne voit pas souvent, qui est philia, c'est-à-dire l'amour fraternel. Cette affection concerne particulièrement l'amitié. Toutefois, dans un couple qui s'aime, Eros est aussi philia avec le temps, sans que l'un efface l'autre, et qu'au contraire, ils vont se renforcer l'un l'autre dans une reconnaissance mutuelle. Et puis, avec philia, j'avais une petite anecdote qui nous vient des États-Unis, comme par hasard. William Penn, au début des années 1608, donc dans les premiers colons qui sont allés par là-bas, il a conclu un traité avec un chef amérindien qui s'appelait Tamanend pour construire une ville portuaire sur le fleuve Delaware. Et cette ville lui servirait de centre gouvernemental. Et on l'appelle Philadelphia, de Philia, donc la ville de l'amour fraternel. Deuxième qualité, Dieu est juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables, psaume 119, 137. Face au mal, parfois même au mal absolu, on se demande réparation, on réclame justice. Or, que voit-on quelquefois se produire ? Le brigand, le méchant, l'infâme personnage, le meurtrier, le violeur, le pédophile, j'en passe, s'en sort sans une égratignure, même pas condamné. Vice de procédure, manque de preuves directes, témoignages de victimes contradictoires, suffisent à ce que le juge décide la relaxe du prévenu. Alors ça va pas du tout. Parce que la loi, bien sûr, appliquée par le juge, c'est condamner quelqu'un par des preuves A plus B. Mais c'est injuste aux yeux des victimes et des proches des victimes. Et c'est injuste aussi aux yeux de Dieu. Et lui, qui sait exactement ce qui est arrivé, parce que nous, on peut tout cacher. Même le pire des brigands, il peut tout cacher. Pas de problème, mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. Il sait ce qui est arrivé. À la fin des temps, si c'est une consolation, eh bien, il y aura un jugement qui vient. Et puis, le brigand, le pédophile, le violeur recevront leur juste récompense à ce moment-là. Dieu est juste. Et j'aimerais rappeler simplement, dans sa justice, une impartialité totale. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. L'apôtre Pierre nous le dit en Actes 10, 34. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » La droiture des actes, ses jugements sont toujours conformes à ce qui est bon. 2 Thessaloniciens 1, 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Alliance et amour, sa justice s'associe à sa miséricorde pour sauver et protéger les faibles. Psaume 85, 11 et 12, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. C'est beau. Équité des comptes, chacun reçoit selon ses œuvres et sa responsabilité. Petite piqûre de rappel de Romains 2, 5, 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et enfin, je me plais à relever ces deux versets, Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pas formidable, ça ?
Ouais.
Troisième qualité. Dieu pardonne. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 1 Jean 2, 1. En effet, par le sacrifice de son Fils, Dieu pardonne à qui se repent de son péché. Et ceci n'est pas une périphrase, c'est une promesse. Hébreux 10, 17 démontre avec force « Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. » Quatrième qualité, Dieu est patient. God is patient. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Psaume 145, 8. Alors à la question, êtes-vous patient? La plupart des gens disent qu'il y a quand même une limite à leur patience. Il y en a qui sont plus ou moins patients que d'autres, bien sûr. Et puis en plus, on est dans une société de l'immédiateté, où la patience, c'est vraiment une vieille notion. Par exemple, on inonde les champs d'engrais, pas toujours naturels, pour que ça pousse plus vite, qu'on puisse vendre plus vite. On donne des vitamines et des hormones de croissance au bétail pour qu'il soit plus vite à l'abattoir. On laisse pas le temps de répondre à un message, un mail, Insta, WhatsApp, sans s'enquérir par téléphone. T'as reçu mon message ? Faut se dépêcher d'aller en vacances. Bon, on va prendre l'avion parce que c'est plus rapide que le train. J'arrête là ma liste d'exemples, hein. Mais vous avez compris que la patience, c'est pas le plus fort de l'humanité. Alors, je vous dirais, pour souligner encore cette histoire de patience, j'ai appris la patience par mon métier. J'ai fait compositeur-typographe à l'époque. Donc, ça date, hein, oulala, les années 70. Hein. Et compositeur-typographe ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Moi, je composais à la main. D'autres composaient à la machine, on les appelait linotypistes. Mais même à la machine, ça n'avançait pas très vite. Un bon typographe faisait peut-être 2500 signes à l'heure. Et ça, c'était les exigences de l'examen. Donc, pour fabriquer un journal où j'étais, d'ailleurs, il fallait prendre du temps. Il fallait être patient. Il fallait que le rotativiste attende que les flancs, ce qu'on appelait les flancs en plomb, soient prêts. Mais pour que les flancs en plomb soient prêts, il fallait que auparavant, les linotypistes et les typographes aient fait leur travail. Donc, c'était toute une chaîne qui suivait et où il y avait le temps. Les clients, ils ne venaient pas vers vous Oui, la carte de visite, là, il me le faut pour avant-hier. Ah, ben, t'attends, mon pote, ça viendra dans une semaine, voilà. C'est tout. Donc, on avait le temps. Donc, ça a été une école de patience pour moi. Pour moi. Mais avec Dieu, eh ben, ça va tout autrement. Parce que lui, c'est quoi qu'il a en point de mire? C'est l'éternité. Et de la patience, lui, il en a à revendre. Voyez d'ailleurs comme il en use avec nous. C'est vraiment sympa, hein? Il supporte les défauts de l'humanité. Il ne se met pas facilement en colère. Il suspend son jugement pour laisser place à la repentance. Mais il a quand même placé une limite. La seconde venue du Christ qui va remettre les pendules à l'heure. Jusque-là, on peut s'attendre à sa patiente miséricorde. Et ça, c'est important. 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » 5e qualité. Hey, Dieu est en colère. Ah ouais. Ah ouais, c'est une qualité, ça. Attendez voir. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1,18. Alors, c'est surprenant de mettre la colère comme qualité, mais pourtant, si Dieu est en colère, c'est d'abord contre le péché. Ce péché qui rompt la relation entre les hommes et lui. Contre Satan qui se permet de nous tenter et de nous faire chuter de toutes les manières possibles. Et Dieu, alors, pourquoi il n'intervient pas? C'est toujours le même clou qu'on va enfoncer parce qu'il nous a laissés libres. Libres de nos choix et des conséquences de nos choix. Libres de nos décisions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, justement. Mais il nous aime tellement qu'il ne nous prive pas de cette liberté. Il nous offre ce temps de grâce pour se tourner vers lui, vers Jésus, son Fils, pour recevoir la rédemption. Gare à ceux qui n'auront pas saisi cette perche. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6,7. Et que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens 5, 6. Et on passe à la 6e qualité. Youhou ! Dieu est tout-puissant. À toi, éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. 1 Chronique 29, 11. Dieu est tout-puissant, entendez par là qu'il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent, il a la puissance sur tout. Dieu peut tout faire, il n'est limité ni par rien, ni par personne. On l'a rappelé tout à l'heure dans les chants, c'est le Créateur. Il a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui contient. Il a créé les planètes, les étoiles, l'univers infini, et même les brins d'herbe qui vont nourrir la vache. Il peut pardonner les péchés, effacer les transgressions. Il peut guérir les malades. Merci Jésus. Quelle que soit l'atteinte à sa santé dont on souffre, il peut sauver de la mort éternelle en donnant la vie éternelle. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, peut-on lire dans Proverbe 9,10 ou dans le Psaume 111,10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et il rappelle qui il est dans Apocalypse 1,8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, ce qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et 7e qualité, Dieu est immuable, il est éternel. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 92. Nous l'appelons éternel, ben ce n'est pas pour rien. Il est de toute éternité. Et pour l'éternité, le Dieu créateur, rédempteur, sanctificateur, bénissant, compatissant, aimant, et j'en passe. Ses lois et son amour restent les mêmes que ce qu'ils étaient lorsqu'il créa la terre. Dieu n'est pas soumis aux caprices, aux opinions fluctuantes d'une société imparfaite et dégradée. Ses lois, son amour et ses voies restent les mêmes que ce qu'ils étaient, resteront immuables pour toute l'éternité. Dieu attend de nous qu'à ce jour, nous suivions les mêmes commandements moraux que Dieu donna au peuple hébreu, accomplis par Jésus-Christ. Et en particulier, deux commandements, voilà encore un clou sur lequel on aime taper, pour bien l'enfoncer, dans Matthieu 22, 37, 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, Dieu. » Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, oui, oui. La barre est haute. Alors, Dieu, est-ce qu'il est un ami? Est-ce que quelqu'un entend le latin ici? Je crois qu'il y a au moins une personne. Si je dis amicus humani generis, qu'est-ce que je dis? Amicus humani generis. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est presque ça, c'est l'ami du genre humain. Et que répond ami du genre humain Alceste dans le Misanthrope de Molière? Qu'est-ce qu'il lui répond? L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Waouh! En fait, ce terme moque ceux qui sont tellement affables avec tout le monde qu'ils n'ont d'affection sincère pour personne. Donc, ils s'opposent diamétralement au cynisme misanthropique. Et Molière, qui était un maître de la langue et un observateur impitoyable de son époque, eh bien, il l'a souligné. Cela a-t-il tellement changé? Attendez, vous allez voir où je vais en venir. Plus près de nous, il y a un certain Michel Sardou, alors... Il n'y a que les plus vieux parmi nous qui savent qui c'est, hein, ça c'est clair, qui avait écrit dans sa chanson Vladimir Ilitch, je ne sais pas si vous vous rappelez, « Amis du genre humain, ils sont devenus fous ». Vladimir Ilitch, « Amis du genre humain ». Moi, je ne vais pas trop cautionner cette phrase-là, parce que là, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch, qui était tout sauf un ami du genre humain. N'oublions surtout pas que c'est lui qui est à l'origine des plus sanglantes révolutions que le monde ait connues, à part la Révolution française et la Terreur. Mais revenons à nos moutons. Dieu, lui, c'est un ami ou pas? Eh bien, moi je pense qu'il n'en est rien. Dieu reste Dieu. Saurait te confondre avec un ami ou pire, un copain? Il est notre créateur, il est notre père. Alors, est-ce que notre père terrestre, c'est un ami? Que nenni! Il est là pour nous donner une bonne éducation. Pour montrer l'exemple et la probité qui devrait l'habiter, pour nous corriger avec douceur, si besoin est. Mais il ne peut pas être un ami, à l'instar de Dieu. En revanche, Dieu prend soin de nous comme ses enfants, comme dit dans Luc 11, 11, 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit, c'est juste une chose parmi d'autres, hein, entre parenthèses. Dieu utilise nos parents pour prendre soin de nous sur cette terre, mais il n'est jamais loin lorsqu'on se confie en lui. Alors, sa grâce se révèle à nous. à l'ombre de ses ailes, nous ne craignons aucun mal. Car si l'homme peut détruire la chair, ben tous mortels, on peut nous tuer. D'ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas dans le monde pour tuer les chrétiens, et d'autres. Eh bien, on ne peut pas détruire l'âme. L'âme, elle appartient à Dieu, pour autant qu'on le reconnaisse, bien entendu, comme notre Père céleste. Alors, je vais aller dans la conclusion. Pour nous, chrétiens, il y a un seul Dieu, en trois personnes. On appelle la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je crois qu'on a chanté les trois, en fait, tout à l'heure. C'était formidable. Alors, j'ai beaucoup évoqué le Père, parce que c'était mon propos, c'était de rappeler qu'il est le Dieu trois fois saint. Il nous appelle à être saints comme lui, par ailleurs. Mais c'est une mission difficile, bien entendu, d'être saint. Et tout à fait impossible sans sa grâce. Tout à fait. Par contre, alors posons-nous la question, si Dieu ne saurait être notre ami, est-ce que Jésus-Christ, lui, il l'est ? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de relater brièvement ce que notre société a fait de lui. Alors, pour ceci, je vais vous prendre un petit exemple dans l'Antiquité. Vous savez qui c'est ? Les historiens ! Enfin ! Ben là, vous avez Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, né en 356, mort en 323 avant Jésus-Christ. Il y en a qui ont l'impression que je m'enlise de nouveau, mais ce n'est pas du tout le cas, vous allez voir. Il a conquis un empire immense. Il s'est même attaqué à l'Inde, où il s'est cassé les dents, d'ailleurs. Et tout ce qu'on sait de lui tient à des sources peu fiables. Des écrits qui remontent au mieux au 1er siècle, voire au 2e siècle de notre ère, ça veut dire 400 ans après sa mort. Et pourtant, personne dans notre société ne met en doute ni qui il était, ni ce qu'il a fait. Bon. Maintenant, nous avons un courant de pensée qui nie l'existence de Jésus. Et tout ce qui concerne Jésus, non seulement est annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes, mais en plus est attesté dans le Nouveau Testament, dont tous les textes ont été écrits avant la fin du 1er siècle. D'autre part, ces textes se fondent sur des témoins qui ont vécu avec le Christ, qui ont vu le Christ, qui l'ont vu ressusciter, qui l'ont vu monter au ciel. Et tous les manuscrits, notamment ceux de Qumran, attestent que le Christ a existé. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint lui-même en rend témoignage à tous les croyants authentiques. Mais voilà, comme à l'époque du Christ, sa personne même est clivante. Il vient pour nous réconcilier avec le Père, mais par là même, il nous met le nez dans le péché. Impossible à camoufler ou atténuer, qui nous accuse bien plus sûrement qu'un tribunal. Et Jésus veut que nous soyons en mesure de l'effacer par la grâce du Père et son propre sacrifice à la croix. Alors, vous allez voir, c'est bientôt fini. Qu'est-ce qui retient les gens ? Qu'est-ce qui retient les gens ? Parce que il y a des choses qui retiennent les gens d'aller vers Jésus. Alors, premièrement, Satan, qui leur fait croire, comme dans le jardin d'Éden, qu'ils seront des dieux sans Dieu. L'homme se débrouille tellement mieux par lui-même. Ouais, on voit ce que ça donne, hein. La simplicité avec laquelle le salut est offert, ce qui est simple, ne convient en général pas aux humains. On cherche toujours de midi à 14 heures, alors que la solution, elle est sous notre nez. La gratuité de ce salut, ce qui est gratuit, c'est suspect. Combien je vais devoir payer cette gratuité ? L'orgueil, qui consiste à ne pas vouloir dépendre de quiconque. Le qu'en dira-t-on ? Mais qu'est-ce que vont penser les gens ? Ils vont croire qu'on est des momiers ou quoi ? La croyance qu'on est libre sans Dieu, pas de contraintes, pas d'ordre à recevoir, pas de pratique à accomplir, pas d'église à fréquenter, youhou ! Le dimanche au golf. La religion qui inculque justement des pratiques et des rites qui sont tout sauf de bonne odeur à Dieu. Tout ça, c'est garbage out, poubelle. Viens, Jésus, me purifier de tout ce chenier dont je n'ai pas besoin. J'ai seulement besoin de ta présence, tellement réconfortante, tellement douce et agréable. Je ne peux plus m'en passer. Je suis accro à toi, Jésus, et j'en suis fier. Je crois que tu es définitivement mon bien-aimé, mon époux et mon ami.